Sono Assurance vous propose Priorité Santé, avec l'assurance d'être en de bonnes mains. Sono Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Prendre soin de sa santé veut également dire faire attention à sa santé bucco-dentaire. Trop souvent délaissée en l'absence de douleur, la cavité buccale est pourtant en lien direct avec l'ensemble de l'organisme. Alors caries, tartre, gencives, irritées, dents déchaussées, mal placées, mauvaise haleine, les soins dentaires coûtent souvent cher, particulièrement en ce qui concerne les dernières nouveautés, par exemple comme les implants ou le laser. Mais une bonne santé bucco-dentaire est aujourd'hui finalement un des facteurs clés d'intégration sociale. Se brosser les dents 2 fois par jour, consulter régulièrement son dentiste, éviter le tabac, les sucreries. Alors, comment bien prendre soin de ses dents? Que faire lorsqu'on a mauvaise haleine, par exemple? Quelles sont les nouvelles techniques et les recherches en matière de santé bucco-dentaire? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le docteur Christian de Cloquemont. Il est chirurgien dentiste, secrétaire général adjoint de l'Association dentaire française et président du Collège de bonnes pratiques en médecine bucco-dentaire. Si vous avez envie de lui poser des questions, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le docteur Moïse Ngongolo, qui est chirurgien dentiste à Mbanzangou, dans la province du Congo central, en RDC. Et en fin d'émission, on va reparler du concours pour créer, vous savez, une appli santé. Docteur Christian de Cloquemont, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Priorité Santé. Je voudrais qu'on dise un mot du congrès de l'Association dentaire française qui s'est déroulé au mois de novembre. Vous deviez d'ailleurs venir faire une émission à ce moment-là et on avait été obligé de décommander à propos des événements et des attentats. Ce congrès d'Association dentaire française, d'abord, ne concerne pas que les chirurgiens dentistes français.
Non, absolument. C'est notre souhait d'ailleurs de l'internationaliser au maximum. Donc ce congrès a eu lieu dans des conditions, vous imaginez, un petit peu particulières, mais ça n'a pas découragé nos confrères, et ça je voudrais au moins les confrères africains qui nous écoutent aujourd'hui les remercier parce qu'ils étaient présents en nombre. Le thème de ce congrès, c'était le numérique, parce qu'évidemment notre profession tombe dans le numérique comme l'ensemble de la société. Alors je vais en
quelques mots,
expliquer ce que représente le numérique pour nous. Bon, bien sûr, il y a toujours la communication plus facile avec les tablettes, l'imagerie, la gestion. Ça, c'était déjà connu. Mais ce qui est un petit peu nouveau, c'est l'évolution de la radiographie tridimensionnelle qui chez nous prend une importance considérable parce qu'on travaille sur une sphère. Hein, finalement, les dents sont positionnées sur une sphère très important. Et également la fabrication des prothèses à partir d'empreintes optiques. On peut réaliser presque instantanément des prothèses.
On ne fait plus un plâtre dans la bouche, c'est ça?
Non, on n'aura plus les célèbres nausées chez le dentiste. En principe, les caméras sont suffisamment petites pour ne pas en provoquer. Voilà les trois axes principaux sur lesquels...
Mais c'est un domaine, en fait, dans lequel on avance beaucoup.
Très vite. Très, très vite. Et je crains fort que même des technologies actuellement qui semblent de pointe vont être très, très rapidement dépassées. Par exemple, on parlait de l'imagerie, on parlait de la caméra. Ben, je pense que si les imprimantes 3D, si on trouve un matériau capable de sculpter des dents à partir du système de fonctionnement des imprimantes 3D, ben on aura plus l'empreinte à faire. Enfin, voilà, on peut imaginer que ça va aller très, très vite.
Alors, les auditeurs sont très nombreux à appeler pour vous poser des questions. On a Théophile en ligne qui nous appelle de Libreville au Gabon. Théophile, bonjour.
Ah oui, bonjour.
On vous écoute, Théophile.
Alors, donc, moi ma question était, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que quand bien même on se brosse le matin, on se brosse le soir et parfois même à midi, on a toujours une mauvaise haleine en cours de journée, en longueur de journée.
C'est ce qui vous arrive, c'est ça à vous?
Alors, pas forcément à moi, je l'ai constaté chez deux de mes collègues. Et moi personnellement, c'est le saignement lorsque je me brosse.
Vous avez les gencives qui saignent quand vous brossez. Alors, c'est effectivement deux questions du coup sur à la fois le saignement et la question de la mauvaise
haleine.
Absolument,
mais vous allez voir qu'elles sont liées. Bonjour Théophile. De toute façon, la mauvaise haleine, alors soit c'est réellement senti et ressenti, soit c'est un effet qui peut être, on imagine qu'on a mauvaise haleine, mais on n'a pas mauvaise haleine. Alors, la mauvaise haleine, on disait toujours, oh ben ça, ce sont des problèmes d'estomac. Et on s'est aperçu qu'au contraire, 95% des problèmes de mauvaise haleine provenaient de l'état de la bouche.
veut dire en fait qu'on se brosse les dents pas suffisamment bien.
Voilà, c'est-à-dire que quand on se brosse les dents, on imagine qu'on a tout éliminé, mais il y a des tas de petites anfractuosités dans la bouche. Et là, il y a des aliments qui peuvent rester coincés, et ces aliments se dégénèrent en quelque sorte en dégageant l'hydrogène sulfuré. Et l'hydrogène sulfuré, c'est ce qui donne cette odeur très très désagréable de la mauvaise haleine. Alors, il faut voir qu'on se brosse les dents. On se brosse pas nécessairement la langue, ce qui est une erreur, parce que la surface de la langue est en granité. Il y a toujours des petits aliments qui peuvent rester coincés. Et Théophile, vous avez évoqué que pour vous, il y avait des saignements des gencives. Saignement de gencive veut dire inflammation. Et quand il y a inflammation, il y a certaines bactéries qui se développent à l'intérieur des gencives et qui provoquent également, qui laissent des traces de mauvaise haleine. Donc finalement, tout ça, plus éventuellement des contacts entre les dents qui sont insuffisants, des prothèses mal adaptées, tout ça sont des causes essentielles de mauvaise haleine. Ensuite, on descend un petit peu plus bas, ce sont les problèmes pulmonaires. Hein, bien sûr, peuvent créer des phénomènes de mauvaise haleine.
C'est-à-dire quand on a des
bronchites ou des problèmes
encombrés, les
bronches encombrées, on peut avoir aussi une mauvaise haleine. Et puis en dernier seulement, les problèmes d'estomac que l'on qualifiait de principaux responsables de la mauvaise haleine.
Donc finalement, c'est plutôt le brossage de dents et on va
revenir. On en revient. Je crois que ça va être un leitmotiv finalement. C'est tout bête. C'est ce que je dis. C'est pas la peine de faire autant d'années d'études pour dire aux gens brossez-vous les dents, mais c'est fondamental.
Et on va y revenir bien le faire. Merci beaucoup, Théophile, pour votre question. Et on a Georges Herman qui nous appelle de Douala au Cameroun. Georges Herman, bonjour.
Bonjour Claire, bonjour à notre invité du jour.
On vous écoute.
Bonjour.
Voilà, justement, je voudrais m'aligner derrière Théophile pour demander normalement combien de fois tu se brosses les dents par jour. Et quand on parle de brosser les dents, on ne maîtrise toujours pas la technique. Comment doit-on se brosser les dents justement?
Alors, question très intéressante. D'abord, se brosser les dents combien de fois par jour ?
Alors, question fort intéressante qui a donné lieu à des débats, bien sûr. Et je crois que maintenant, tout le monde se met d'accord pour dire qu'il faut se brosser les dents deux fois par jour, obligatoirement. Le troisième brossage n'étant pas inutile, mais n'apportant pas nécessairement un plus.
Donc matin et soir.
Matin et soir. De quelle façon se brosser les dents ? Tout simplement, il faut penser que le brossage, c'est pour éliminer de la matière, hein, éliminer des choses collées sur les dents. Donc, si vous commencez par brosser les dents, et si vous l'avez sur la gencive, toute la matière que vous enlevez sur la dent, vous la déposez sur la gencive et vous entraînez secondairement une inflammation de la gencive. Donc, il faut faire le contraire. Il faut partir du haut de la bouche, c'est-à-dire la gencive, vous descendez sur la dent et après vous éliminez, donc obligatoirement.
Donc ça sert à rien de brosser comme des brutes, si je puis m'exprimer ainsi.
Non, il faut surtout pas brosser horizontalement, mais toujours verticalement. Donc de haut en bas, en haut, évidemment de bas en haut, en bas. Ne pas hésiter, ce que je disais tout à l'heure, à brosser un petit peu la langue, ouais, en y allant doucement, parce que ça peut provoquer des réflexes de nausée. Et je crois qu'il faut à partir de ce moment-là, on se brosse correctement
les dents. Et pendant combien de temps ?
Alors la durée correcte d'un brossage, c'est 3 minutes. 3 minutes. Que vous divisez sur les quatre côtés de la bouche, ça convient tout à fait, c'est le brossage habituel.
Et on change de brosse à dents tous les combien de temps ?
Alors ça, il est important d'avoir une brosse à dents. Quand on regarde la forme d'une brosse à dents, elles ont des formes très particulières, c'est pas par hasard. Il y a des poils plus longs, des poils plus souples. Donc tout ça correspond à un passage sur la dent qui n'est pas une surface plane mais qui est un ensemble d'arrondis. Donc plus on use la brosse à dents, plus ces poils s'écrasent, ça n'a plus de forme et donc ça sert à rien. Donc je pense que raisonnablement, une brosse à dents, c'est 3 mois, pas plus. Si vous êtes une brute.
Voilà, mais autrement 3 mois pour la brossage. Et quelle pâte à dentifrice choisir ?
Alors le choix de la pâte dentifrice est certes important, mais on s'est aperçu que ce n'est pas fondamental. Bon, c'est vrai que.
Pourtant, qu'est-ce qu'il y a comme pub là-dessus ?
Qu'est-ce qu'il y a comme pub là-dessus ? Alors il y en a un qui brosse plus blanc que blanc, il y en a un autre qui soigne vos gencives. Alors c'est vrai que chaque dentifrice a un petit peu sa spécificité. Selon la composition chimique du dentifrice, vous allez avoir un dentifrice qui va agir plus sur la carie, un autre qui va agir plus sur la gencive, d'autres qui sont avec un côté blanchissant, c'est-à-dire des produits qui vont permettre d'éclaircir la surface de la dent. Mais en général, vous savez, je crois que maintenant, tous les dentifrices, quels qu'ils soient, sont des produits de qualité parce qu'ils sont contrôlés. Et je crois qu'il faut utiliser un dentifrice, certes, mais pour moi, le brossage est plus important que le choix du dentifrice.
D'accord. Georges Herman, on a bien répondu à vos questions ?
Oui, en effet, entièrement, merci beaucoup.
Merci beaucoup,
merci à vous.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de la santé de nos dents avec le docteur Christian de Cloquemont, qui est chirurgien dentiste. Et on a Oumar qui nous appelle de... Non, on n'a pas Oumar. On a Seikou qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Seikou, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Seikou.
Bonjour.
Bonjour.
En fait, la question que j'ai à poser, c'est que moi, j'ai une mère, j'ai une maman diabétique et hypertendue. Donc, c'est moi qui l'aide à faire sa qualité vitale. Et je voudrais poser la question à savoir, par rapport à ces maladies, comment l'aider à mieux...
Oui, c'est ça. Est-ce que, en fait, votre question, c'est un peu de savoir s'il y a un lien entre ses dents et le diabète, docteur Christian de Cloquemont.
Eh bien, écoutez, comme disent les hommes politiques, c'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée parce que c'est un problème très très particulier et qui d'ailleurs a été mis en avant aussi à notre congrès de l'ADF et qui nous intéresse beaucoup. Le lien santé générale et santé bucco-dentaire est de plus en plus important pour nous. Et le diabète est l'exemple même de la pathologie qui a beaucoup de conséquences sur les dents. Et je dirais même que un diagnostic précoce de certains problèmes dentaires peut entraîner un diagnostic de diabète. Donc je comprends tout à fait les soucis qu'ont votre maman. C'est vrai que le diabète a tendance à, si vous avez une gencive enflammée, eh bien elle ne se guérira pas, parce que le diabète, comme sur une plaie dans l'organisme.
La cicatrisation se fait moins bien.
La cicatrisation se fait moins bien et ça entraîne justement des inflammations de gencive, ce qui explique que les dents après, elles n'ont plus leur support osseux.
Et donc elles tombent.
Et elles tombent. Bon, alors. Oui. Que faire? C'est très difficile si la maladie est déjà engagée. Pardon, et depuis un moment, et si votre maman a déjà perdu des dents, on peut plus faire grand-chose. Mais pour celles qui restent, il faut insister sur le brossage des dents, soigneux, comme je l'ai indiqué précédemment, et peut-être ajouter la prescription de bains de bouche antiseptiques qui auront un effet sur les bactéries se trouvant situées dans la gencive. C'est ce que l'on peut faire, et surtout surveiller, si c'est possible, je ne sais pas si c'est possible pour vous, mais surtout faire surveiller les dents très très régulièrement par un praticien dentiste. Je dirais même qu'un diabétique devrait voir son praticien minimum tous les 6 mois.
Donc 2 fois par an. Et sur ceux qui ne sont pas d'ailleurs diabétiques, c'est quand on vient vous voir tous les combien de temps ?
Alors, normalement, à partir d'une visite initiale, on voit à peu près, on évalue dans une bouche le risque de carie et le risque de problème de gencive. Mmh. Si une personne n'a pas de risque particulier, un contrôle 1 fois par an me semble être le bon timing. Et si par contre, on relève... Par exemple, des problèmes de caries, il faut venir plus fréquemment. Ça peut aller jusqu'à 1 fois tous les trimestres pour des problèmes de gencives.
C'est ça.
Où là, il faut faire ce qu'on appelle la maintenance, c'est-à-dire qu'avec des instruments à nous, professionnels, on nettoie les dents régulièrement.
Donc en fait, ce que vous nous dites en tout cas, c'est que pour les personnes diabétiques, il faut faire encore plus attention à ses dents.
Très important, c'est fondamental et c'est un thème qui nous intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce qu'en France, on a du mal au niveau des contacts avec la médecine.
Mais justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que les diabétologues disent à leurs patients, mais il faut que vous alliez plus régulièrement chez le dentiste?
Ça commence, mais ils sont poussés par les associations de patients diabétiques qui, elles, sont parfois souvent conscientes du travail des chirurgiens dentistes et demandent à leur médecin, pose la question. Mais même quand on va à la Haute Autorité de Santé, on oblige de taper sur la table pour demander à participer aux réunions concernant le diabète.
Merci beaucoup, Seikou. Donc, on a bien compris, une consultation par an si on n'a pas de pathologie particulière. En cas de diabète, c'est plutôt 2 fois par an. Bon. Et à quel âge, à partir de quel âge, la première consultation chez un dentiste?
Bon, on va vous dire, les puristes vont vous dire dès qu'apparaissent les dents. Enfin, vous imaginez qu'un petit bébé de quelques mois, si j'en juge par mes petits enfants, j'ai du mal à regarder leurs dents. Donc c'est pas possible. À moins d'avoir. Mais je crois que à partir de 4-5 ans, je crois que c'est vraiment indispensable d'avoir vu un praticien pour voir déjà comment les dents de lait se présentent, voir s'il y a pas des caries. Il y a des enfants qui à cet âge-là ont déjà des caries.
Hein, dès 4-5 ans, et oui. On commence à se laver les dents à quel âge?
Dès qu'il y a, je dirais, quelques dents de lait présentes sur l'arcade. Parce que, c'est vrai que ça a une importance, c'est moins important, mais le geste est important. L'enfant va copier, l'enfant va prendre l'habitude d'attraper une brosse à dents, et il va imiter, et après ça deviendra un geste quotidien.
Donc c'est important. On a Guelph, qui nous appelle de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Guelph, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
D'accord. Bonjour aux auditeurs de la RFI.
Bonjour.
Bonjour, monsieur le docteur.
Bonjour.
J'ai deux petites questions. À chaque fois que je prends de l'eau froide, j'ai toujours mal aux dents. La deuxième question est, quand je prends de l'avion, j'ai l'impression que mes dents sont trouées. Est-ce que c'est la carie dentaire ou bien c'est la mal utilisation d'entreprise?
C'est ça, quand vous mangez de la viande, vous avez l'impression qu'il y avait des morceaux qui se coincent à l'intérieur de votre dent. On va peut-être répondre d'abord à cette première question de Dr. Christian
Pierre-Mont. Oui, sur le fait d'avoir mal au froid lorsqu'on prend de l'eau. Alors, ce qui se passe, c'est que les dents sont recouvertes d'émail. La gencive recouvre le haut de la dent, ce qu'on appelle le collet de la dent, c'est-à-dire la jonction entre la gencive et la dent. Mais au fur et à mesure du temps, des brossages, de l'usure de la mastication, ces couches de protection disparaissent. Et lorsqu'au niveau du collet de la dent, c'est-à-dire de la zone qui est entre la gencive et le haut de la dent, vous avez une usure de l'émail, eh bien, il n'y a plus de barrière, dirons-nous, protectrice. Et là, dans cette zone-là, il y a des millions et des millions de petites terminaisons nerveuses qui vont vers le centre de la dent où il y a le nerf de la dent. Et on excite ces petites terminaisons nerveuses et ça peut faire très très mal. On a des patients qui viennent nous voir en disant « Docteur, j'ai des caries sur toutes les dents ». On les déçoit en leur disant qu'on ne trouve pas de caries, mais on diagnostique ce qu'on appelle une sensibilité du collet de la dent. Alors, bien sûr, c'est vient de faire un diagnostic, mais il faut proposer un traitement.
Qu'est-ce qu'on fait? Voilà.
Et donc, en principe, on essaie de... Maintenant, on a des vernis qui se positionnent à la surface des dents pour essayer d'oblitérer ces petits trous, hein, parce que vous imaginez le nerf, il est tout autour d'un petit trou plein de calcium, et on essaie de mettre des produits qui ferment, qui oblitèrent ces petits trous pour éviter que les stimuli froids ou chauds d'ailleurs passent au travers. Et sinon, alors là, il y a des dentifrices qui ont une composante, j'ai oublié de les citer tout à l'heure, mais qui ont une composante particulière pour la sensibilité, les dents sensibles. Et là, vous avez différents types de molécules qui agissent pour fermer ces petits tubulés et diminuer la douleur. Et puis quand ça va pas du tout et qu'on a vraiment des grosses, on peut avoir des grosses pathologies avec ça. Et évidemment, plus on a incité au brossage, et plus on a ce genre de pathologie, parce qu'on dit aux gens, brossez-vous régulièrement. Si par hasard, ils le font pas de haut en bas, mais longitudinalement, mais ils abrasent leurs dents. C'est une brosse à ongles que vous passez en permanence sur la dent. Donc, on a de plus en plus ce genre de pathologie. Et ça peut aller jusqu'au port de gouttières que l'on fabrique, dans lesquelles on met du fluor. Et on fait porter ça aux patients pour diminuer la sensibilité. Ça marche pas mal, ce genre de traitement. D'accord. Et c'est très simple, hein.
Et votre petit vernis, là, justement, oui. il tient combien de temps?
Alors, le petit vernis, il tient pas très longtemps, mais suffisamment.
C'est quoi votre pas très longtemps?
6 mois.
6 mois, donc il faut revenir tous les 6 mois.
Un an, peut-être maintenant un an avec les nouveaux vernis. Mais ce qui compte, c'est que le produit actif soit au contact de la dent et le demeure. Un bain de bouche, c'est éphémère. Là, vous avez quand même un contact actif au niveau de la dent et ça marche pas mal, ça.
La deuxième partie de la question de Gwelb qui dit, quand je mange de la viande, j'ai des morceaux qui se coincent dans les dents, l'impression d'avoir des caries, ce qui n'est pas forcément des caries.
Non,
mais voilà.
Pas forcément. Alors, ça peut être soit lié, il y a plusieurs raisons. Soit ça peut être lié à la position des dents, hein, il y a des écarts entre les dents, ça peut être naturel, ça peut être, auquel cas, c'est très gênant ce genre de problème. Soit il y a une mobilité des dents, des problèmes de gencives qui entraînent une mobilité des dents, un déplacement des dents. Et le premier signe, c'est la perte du contact entre les dents. Et c'est aussi un des signes de problèmes de gencives. Et puis le troisième problème, c'est tout simplement les caries qu'il y a sur le côté des dents, hein, qu'on ne voit pas nécessairement comme ça, et qui peuvent... tout élément situé entre les dents accroche les aliments, hein, quoi qu'il arrive.
Et d'où l'intérêt de ce que vous nous disiez tout à l'heure, quand on se brosse les dents, d'utiliser parfois ou un fil dentaire ou des toutes petites brosses entre les dents.
Ou des petites brossettes, absolument. Et ça, ce sont des éléments qui vont permettre, alors, non seulement d'éliminer mécaniquement les aliments, mais en même temps de masser la gencive qui va avoir tendance à remonter un petit peu, à laisser moins passer les aliments.
Merci beaucoup Guelph de nous avoir appelé de Kinshasa en République démocratique du Congo. On le voit à quel point ce brossage de dents est important, le faire correctement. On a l'impression qu'on a encore pas mal de choses à apprendre dans ce domaine. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations. Je vous redonne le téléphone, le 33 1 84 22 75 75. On attend toujours vos questions.
Retrouvez Priorité Santé après le Flash Info avec Sunwa Assurance. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la santé de nos dents avec le docteur Christian de Ploquemant, qui est chirurgien-dentiste, secrétaire général adjoint de l'Association dentaire française et président du Collège de bonnes pratiques en médecine bucco-dentaire. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Vous êtes d'ailleurs nombreux à appeler. Et nous avons au téléphone le docteur Moïse Ngongolo, qui est chirurgien dentiste à Mbanza Ngungu, dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo. Docteur Ngongolo, bonjour.
Bonjour, Claire.
Je vous avoue que j'ai essayé de regarder sur une carte où est-ce que vous étiez exactement. C'est vraiment dans le centre de la RDC, hein?
Oui.
Vous êtes en plein centre. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler justement d'accès aux soins dentaires. Quelles sont les difficultés que les patients rencontrent en République démocratique du Congo? J'imagine d'abord que c'est le manque de chirurgiens dentistes.
Oui, bien entendu. Pour un pays qui rayonne aussi de 70 millions d'habitants, le nombre de chirurgiens dentistes en RDC est moins de 1000.
Moins de 1000.
Ça veut dire que...
Moins de 1000 pour combien d'habitants, vous avez dit?
Plus de 70 millions d'habitants.
Plus de 70 millions d'habitants. En France, il y a combien de chirurgiens dentistes?
Bonjour, mon cher confrère. En France, eh bien, nous avons 40 000 chirurgiens dentistes pour 60 millions d'habitants.
Ouais, c'est ça.
Donc le problème est posé.
Le problème est posé. Déjà, un accès difficile, donc on manque de chirurgiens dentistes. Quelles sont les autres difficultés? J'imagine aussi qu'il y a une question de coût.
Oui, il y a un problème de coût. Lié aux soins dentaires, les soins dentaires en général coûtent cher, alors que la population est pauvre, et du fait que l'accès aux soins dentaires pose énormément de problèmes.
Quels sont du coup les principaux motifs de consultation? C'est-à-dire que les gens arrivent quand il y a une carie déjà très avancée qui leur fait très mal?
Oui, les gens viennent après avoir une carie qui fait très mal, après avoir passé 2, 3, 4 jours sans pour autant dormir. Et après avoir essayé toute une panoplie de médicaments qui n'ont pas marché, à ce moment-là que les patients arrivent en consultation. Il y en a d'autres qui arrivent un peu plus tardivement, avec un tableau général assez délabré, avec des tableaux de cellulite, des fluidements, donc très compliqués.
Est-ce que les patients ont toujours conscience, c'est que ces caries à un stade avancé peuvent finalement être graves pour la santé?
Non, la plupart des patients, non. Pour la plupart des patients, ils pensent que la dent n'était pas tuée, que la dent est quelque chose qui ne peut pas entraîner la mort. Et du fait que quand une personne a des maux de dents, il cherche à trouver des solutions par lui-même, et ça, c'est compliqué. Et si souvent, quand ils arrivent à l'hôpital général où je travaille, ils arrivent en retard, dans un tableau clinique assez délétère, et du fait que la prise en charge devient assez compliquée, et beaucoup d'entre eux finissent par mourir par un choc septique.
C'est ça, par une infection. C'est assez étonnant ça, docteur Christian de Ploquemant. On n'imagine pas qu'une carie dentaire peut, entre guillemets, dégénérer.
Mais bien sûr que oui, et on a vu, on imagine les pathologies que peuvent rencontrer nos confrères. Une dent, une fois qu'elle est infectée, l'infection passe de la racine de la dent dans la circulation générale, le maxillaire dans lequel est implantée la dent. C'est une circulation, ça peut entraîner des problèmes cardiaques importants.
Ça passe dans le sang.
Ça passe dans le sang. Mmh. On peut avoir des cellulites comme le docteur a évoqué qui sont terribles et qui peuvent entraîner la mort. Moi j'ai souvenir d'avoir fait il y a quelques années mes études bien sûr, mais dans des services on voyait des décès provoqués par les dents. Maintenant bon,
moins
parce qu'on a quand même beaucoup de une panoplie d'antibiothérapie qui est importante, mais j'imagine que si les médicaments ne sont pas disponibles à une forte dose, sachant que ce sont des pathologies qui ont traîné, oui tout à fait, il faut avoir conscience du fait que une dent peut entraîner des problèmes très graves.
Docteur Moïse Ngongolo, j'ai encore deux questions à vous poser. La question des nouveautés, du nouveau matériel, par exemple de tout ce qui est implant numérique et tout, est-ce que ça arrive aussi en RDC?
Oui, les implants, un tout petit peu, vu le pied, les implants, c'est assez difficile que vous puissiez avoir assez de patients qui demandent des implants. Peut-être à Kinshasa, quelques-uns à propos de développement, mais dans les provinces, ça,
plus difficile. Et dernière question, comment faire pour améliorer l'accès aux soins dentaires dans votre pays?
Bon, personnellement, là où moi je suis, j'ai dû créer une ONG ayant pour but la lutte contre les pertes dentaires avec deux projets. Je travaille plus dans la sensibilisation au niveau des écoles. Je passe, je donne des enseignements, je montre comment brosser la dent. Enfin, il faut tous les éléments liés à la prévention. Mais la seule difficulté qu'il y a, ça demande du temps, ça demande des moyens, un certain nombre de ressources. Je suis seul dans la zone de santé où je suis, pratiquement dans les districts où je suis. C'est un peu difficile, vu mes nombreuses occupations, de pouvoir faire les tout à la fois. Donc c'est ça un peu la difficulté que j'ai. Ainsi qu'on lance un SOS. Pour ceux qui me suivent, qu'ils peuvent nous aider dans ce sens-là, on pourra vraiment sauver la vie de beaucoup de gens.
Et améliorer l'accès aux soins dentaires. Merci beaucoup, docteur Moïse Nkongolo. Je rappelle que vous êtes chirurgien dentiste dans la province du Congo central, c'est en RDC.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de la santé de nos dents avec le docteur Christian de Cloquemans. On a Amadou qui nous appelle de Makam au Sénégal. Amadou, bonjour.
Bonjour, Claire et Don.
On vous écoute, Amadou.
Bonjour au docteur et bonjour à tous les auditeurs de RFI de par le monde. Plus particulièrement à mon village de Gouma du Funévé. Bon, Claire, on entend souvent parler, les gens parler de lien entre la qualité de l'eau que l'on boit et la santé bucco-dentaire. Existe-t-il vraiment un lien de cause à effet entre le type d'eau qu'on utilise et notre soin bucco-dentaire?
Alors, je sais que vous avez une autre question à poser à Madou, on vous la redemandera après. Docteur Christian de Cloquemans, est-ce qu'il y a un lien entre les deux?
Le lien, il est dû à la composition de l'eau, bien évidemment. Ce qui est important, c'est le fluor. On l'a vu, hein, le fluor. J'évoquais tout à l'heure le fluor dans l'alimentation et bien sûr dans la boisson. Donc, si les eaux sont très fluorées, c'est plutôt favorable, hein, à la prévention bucco-dentaire, mais aussi il faut savoir que des eaux trop fluorées entraînent des couleurs marron sur les dents qui sont très 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 désagréables, et je crois que notamment en Afrique il y a ce problème très particulier. Alors maintenant, bien sûr, après la qualité de l'eau, s'il y a une présence bactérienne ou autre,
c'est pas bon a priori.
C'est pas bon a priori, mais pas plus pour les dents que pour le reste.
D'accord. Non, mais c'est plutôt la question, absolument, c'est plutôt la question du fluor.
Voilà, la composition fluor qui est importante.
Vous aviez une autre question à poser, Amadou.
Oui, j'ai une autre question. Bon, je voudrais savoir votre avis quoi, sur la floraison des remèdes miracles quoi, pour se blanchir les dents. Voilà, qu'il faudrait sur Internet. Quoi.
Ah oui, on trouve plein de choses, de produits miracles pour se blanchir les dents. Vous allez peut-être nous dire aussi un mot des barres à sourire qu'on voit fleurir en France. Docteur Christian de Cloquemans, j'imagine d'abord qu'il y a des risques à toutes ces choses-là.
Oui, absolument. Alors, il faut se méfier parce que cette mode des dents blanches...
Ultra blanches,
plus blanches que blanches, dit notre ami Coluche, c'est dangereux. C'est dangereux parce que finalement la dent c'est quelque chose d'hermétique. Je vais essayer rapidement de résumer la situation. Donc il y a une barrière qui est l'émail. La couleur de la dent elle est donnée par ce qu'il y a sous l'émail. Donc pour blanchir une dent, il faut franchir cette barrière de l'émail et aller provoquer des réactions chimiques sous l'émail. Or pour franchir la barrière de l'émail, eh bien on réalise une réaction chimique qui équivaut à la réaction de la carie. Donc je vous fais pas de dessin.
Donc on risque de créer des caries.
On risque de créer des caries. Bon, quand c'est contrôlé, bien évidemment, ça pose pas de problème. Alors là, on en revient au problème essentiel. La différence entre un bar à sourire et un chirurgien dentiste qui redonne le sourire, c'est que le professionnel surveille qu'il n'y ait pas de caries, contrôle la bouche avant. Le bar à sourire.
Et n'utilise pas de produits nocifs.
Et n'utilise pas de produits nocifs, d'autant que la réglementation européenne est devenue extrêmement sévère sur l'utilisation des produits de blanchiment. Et justement, pour faire face à ces produits que l'on trouve sur Internet ou dans les supermarchés, où chaque semaine, en prenant son paquet de pâtes, on prenait aussi un produit blanchissant. Et finalement, ça a créé des choses épouvantables.
Et ce qui crée des caries, mais aussi des dents trop sensibles.
Des dents sensibles, des gencives sensibles, enfin, il y a plein de problèmes. Donc le blanchiment, c'est bien, ça existe, il faut le faire de façon progressive et surtout ne pas se laisser tenter par les gadgets proposés sur Internet ou ailleurs ou dans les bars à sourire. D'ailleurs, je crois que les bars à sourire
on n'en voit plus tellement. Là,
non, d'ailleurs. Je crois que ça a été la profession, c'est un peu battu contre les bars à sourire. Je crois
que ça a marché. Merci beaucoup en tout cas, Amadou, pour ces questions. Je voudrais faire part des questions de Jean-Pierre qui est à Tunis en Tunisie qu'on n'arrive pas à joindre et qui demande est-ce qu'il y a un lien entre alimentation et santé dentaire. Alors on a toujours par exemple beaucoup entendu parler des sucreries.
Oui, bien sûr.
Donc effectivement, faire attention.
Bien sûr. Il y a un lien entre tout l'alimentation, la diététique en général et les caries et la santé bucco-dentaire. Parce que finalement, comme vous l'avez compris, toutes les pathologies dentaires, que ce soit caries ou gencives, sont liées à des problèmes d'acidité dans la bouche. Alors évidemment, selon le type d'aliments que l'on prend, ils sont plus ou moins acides. Il y a les boissons aussi, les sodas.
Oui, tout ce qui est soda, on dit que c'est très mauvais pour les dents.
Mais bien
même
sûr,
en dehors du sucre.
Oui, c'est ça, parce qu'en plus il y a une réaction avec des acides citriques et d'autres acides qui sont très très nocifs pour les dents. Et sans citer de marque, il y a une marque très célèbre quand même qui a permis de faire disparaître une dent en la laissant tremper dans le produit que l'on boit quotidiennement dans le monde entier pendant 3 mois.
Ah oui.
L'émail a disparu sur la dent. Donc ça veut dire que quand même il y a une
acidité. Il faut faire attention.
Ouais, il faut faire attention. Alors, il y a ça, il y a aussi le type d'aliments, hein, les chocolats par exemple qui laissent une couche nappée sur les dents. Donc idéalement, quand on prend du sucre, des boissons sucrées, on devrait se brosser les dents chaque fois après. Donc ce n'est pas le cas et tout ça ça provoque des fermentations à la surface de la dent et ça peut provoquer des caries. Donc l'alimentation est importante.
Merci beaucoup en tout cas Amadou pour votre question. Je voudrais faire part de la question de Jean-Paul à Lomé au Togo qui dit dans nos villages on ne trouve pas forcément de pâte dentifrice. Qu'est-ce que vous nous conseillez dans ces cas-là ?
Ah, voilà une question qui est intéressante parce que c'est vrai que les supermarchés n'existent pas partout et moi je crois que je conseillerais tout simplement de mettre de temps en temps un petit peu de bicarbonate sur la brosse à dents, de bicarbonate de soude. Je pense c'est un produit basique que l'on doit pouvoir trouver
en faisant. Mais vous dites simplement un petit peu de temps en temps, pas tous les jours.
Pas tous les jours parce qu'il y aurait un effet abrasif, hein, à moins d'avoir un produit extrêmement. Mais ça peut aider parce qu'en plus c'est antioxydant donc ça peut aider pour les gencives. On peut faire des mélanges oxygénés et bicarbonate de soude, mais là encore il faut l'employer temporairement parce que ça désinfecte les gencives. Mais surtout un brossage mécanique et un rinçage à l'eau tout simplement peuvent remplacer un dentifrice. Moi je fais pas partie de ceux qui croient beaucoup en la vertu
du dentifrice. Finalement c'est surtout le brossage que vous êtes en train de nous dire. On a une question à ce propos d'ailleurs d'Abdallah qui nous appelle du Burundi. Ouais. Abdallah, bonjour.
Bonjour, 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 bonjour beaucoup.
On vous écoute, Abdallah.
D'accord. Moi, j'utilise les savons à la place des dentifrices. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y aura de l'inconvénient à la langue ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est pour rendre mes dents plus blanches. Un ami m'a conseillé de rincer les dents avec le bicarbonate et du sel. Est-ce un bon conseil, ça?
Alors, allons-y d'abord sur le savon.
Sur le savon, en dehors de faire des bulles, je crois que c'est vraiment pas le produit qu'il faut utiliser sur vos dents. Parce que je l'ai expliqué là dans la question précédente, la bouche fonctionne avec des systèmes de pH plus ou moins acide ou basique, et donc le savon, vous avez pas le bon pH et les bactéries qui sont à la surface des dents qu'il faut éliminer, vous les éliminerez peut-être, mais comme vous les éliminerez pas toutes, celles qui restent vont se servir de ce pH pour au contraire être pathologiques.
Donc le savon, c'est pas une bonne idée.
Non, le savon, c'est pas une bonne idée. Comme je disais tout à l'heure, la brosse à dents avec de l'eau claire, c'est peut-être la meilleure des idées, hein. Ouais. En se brossant bien régulièrement après chaque brossage, repasser, se rincer la bouche.
Donc c'est pas parce qu'on a plus de dentifrice un jour qu'il faut pas se laver les dents.
C'est... Exactement. Ah ouais, absolument. Ça, c'est un message important à faire passer.
Et alors le deuxième, on va revenir au bicarbonate et alors mélanger à du sel.
Oui. Alors le mélange avec le sel me gêne un peu parce que c'est extrêmement abrasif le sel. Mettez surtout pas de la fleur de sel parce que alors là vous n'aurez plus de dents. Mais c'est un sel fin vous n'apporte pas grand chose. Mais par contre le bicarbonate en effet c'est un produit qui provoque un éclaircissement. Je préfère le terme éclaircissement des dents.
Mais c'est pas tous les jours surtout.
Ah non, on le fait pendant une période, mais pas tous les jours, hein, parce que sinon.
Et c'est quoi, tous les combien de temps alors ?
Je sais pas. On peut faire une période de 15 jours, par exemple. On a décidé de se brosser les dents avec du bicarbonate, en rinçant bien sûr bien la bouche. On aura un résultat sur les. les dents.
Et on en met combien de bicarbonate? On le mélange à l'eau, c'est ça?
Oui, il faut faire un mélange avec de l'eau pâteuse, hein, de façon qu'on
mélange pâteux, d'accord.
Un mélange pâteux qu'on puisse
un
le mettre sur
la... Un peu comme une pâte à dentifrice.
Voilà, hein, on le met sur, qu'on puisse le mettre sur la brosse à dents et l'étaler correctement.
Mais on peut faire ça 15 jours d'affilée, mais surtout pas en continu.
Surtout
après
pas en continu, parce que les bicarbonates que nous utilisons, nous, des bicarbonates sous pression dans les cabinets dentaires, mais c'est un bicarbonate avec des particules extrêmement fines. Or, le bicarbonate du commerce, les particules sont trop grosses et on raye la dent. Donc si on raye la dent, elle va plus facilement s'encrasser.
Merci beaucoup Abdallah. On a encore deux auditeurs qu'on va essayer de prendre en ligne. D'abord Ulrich qui nous appelle de Paris. Ulrich, bonjour, on vous écoute.
Bonjour à vous, bonjour docteur.
Bonjour Ulrich.
Oui, j'appelle pour deux soucis. D'abord, le premier souci, j'ai les quatre incisives du bas et du haut qui sont chevauchées, comme j'ai dit au standard. Ça c'est le premier. Deuxième élément, ce sont les canines, enfin les dents de sagesse qui sortent. Il y a une qui est sortie penchée, l'autre est quasiment engloutie par la gencive et il y a parfois de petits saignements. Et les deux autres du haut, il y a une qui est sortie à moitié et l'autre pas. Et je voudrais savoir, est-ce qu'une opération des incisives pour les placer en ordre et les dents de sagesse pourrait-il causer des effets secondaires?
Et Ulrich, j'ai juste une question à vous poser, vous avez quel âge?
J'ai 33 ans.
Vous avez 33 ans. Alors, docteur Christian
Bien, Dujotin. Alors là, il faudrait une émission entière pour vous répondre. Et je crois que le temps nous est compté, donc on va essayer d'être efficace. Déjà, la légende populaire qui considérait que les dents de sagesse provoquaient le déplacement des incisives n'est plus du tout d'actualité.
L'histoire de dire qu'il n'y avait plus assez de place dans la bouche.
Il n'y avait plus assez de place. On s'est aperçu que les dents de sagesse n'étaient pas nécessairement la cause du déplacement secondaire des incisives. Donc les dents de sagesse, si elles sont dans l'état où vous m'indiquez, si elles provoquent des saignements, moi je vous conseille déjà, dans un premier temps, de les faire extraire. Hein? Bon, alors, les riz, vous aviez peur des risques. Bon, il n'y a pas de risque maintenant. Hein? Ce sont des interventions parfaitement codifiées. Alors, les incisives superposées, bien sûr. À 33 ans, il est encore possible de faire des traitements. Très rapidement, deux types de traitements que l'on appelle des traitements d'orthopédie dentofaciale. Donc, ça veut dire qu'on bouge les dents. Hein? Deux techniques. La technique classique avec des petites bagues, des petits fils sur les dents. Et une autre technique beaucoup plus récente qui consiste à fabriquer des gouttières que l'on renouvelle régulièrement et qui conduisent les dents dans la bonne position. Hein, c'est-à-dire qu'on imagine sur un modèle en plâtre, on donne la bonne position aux dents et au fur et à mesure on les fait bouger. Et à chaque fois on fait une gouttière qui correspond.
Et la gouttière, on les met quand? La nuit, toute la journée?
On les met la nuit. On peut les porter toute la journée. C'est très discret. C'est, soyons clairs, un petit peu moins efficace que les traitements avec des bagues et des fils, et c'est surtout beaucoup plus onéreux. Bon, ça existe, il faut le dire.
Petite précision importante. Merci oui. Ulrich. Dernière question avec Mohamed qui nous appelle de Bamako, Mali. Mohamed, bonjour.
Bonjour à vous, Claire, et à vous, docteur.
Bonjour.
On vous écoute.
En fait, moi, vraiment, j'ai un souci. J'ai 23 ans. Et depuis 6 ans maintenant, je commence à perdre vraiment des dents. J'en ai perdu 4 et là, c'est la cinquième dent qui est vraiment en train de tomber. Je ne sais pas c'est dû à quoi vraiment.
Et puis c'est un peu jeune hein, pour perdre ses dents.
Oui.
Docteur Christian Cloquement.
Alors malheureusement ça arrive. Hein, ce sont des ce que l'on appelle les parodontites juvéniles, c'est-à-dire que ce sont des. Vous avez un foyer bactérien qui est très très virulent et qui sur des tissus jeunes que sont les vôtres font beaucoup de dégâts. Ce que je vous conseillerais, c'est d'essayer de trouver un praticien qui pourrait vous donner à la fois des traitements antibiotiques pour modifier cette flore et qui en même temps mécaniquement pourrait améliorer la situation parce que à 23 ans c'est pas normal de
perdre ses dents. Donc c'est important d'aller consulter là.
Ah oui, là il faut consulter. Mais ne soyez pas inquiets, c'est pas quelque chose d'extraordinaire malheureusement, ça arrive. Mais là il faut vraiment avoir un suivi dentaire très très précis. Hein.
Merci beaucoup Mohamed et bon courage à vous. J'ai encore évidemment il y a des auditeurs hein, qui auraient encore des questions à vous poser, mais moi aussi. Sur la question de l'alimentation, j'aimerais bien qu'on revienne. On a parlé des sucreries, tout ce qui est thé, café.
Thé et café ne posent pas de problème sur la l'aspect chimique des boissons, mais par contre sur la coloration, hein, ça, le café et le thé
jaunissent les dents,
on n'a qu'à voir votre théière, hein, si elle est un peu ancienne,
elle est un peu jaune,
donc on peut avoir les dents de la même façon, et la caféine aussi. Donc le conseil pour éviter ce genre de problème, c'est de se brosser les dents
après avoir pris un café ou un thé, il faut se brosser les dents
régulièrement,
en fait, c'est ça.
Bon, ce qui est pas toujours le cas, mais enfin si on le fait régulièrement, normalement on doit pas, et puis ça s'enlève très facilement parce que c'est une coloration de surface de la dent. Ça, c'est du domaine du cabinet dentaire.
Je sais pas si on a parlé de la cigarette depuis le début de cette émission.
Pas.
Bon, alors.
Je crois pas. Oh ben, vous savez, nous sommes dans la profession des opposants à la cigarette, bien évidemment. Pour deux raisons, pas seulement pour le côté esthétique, dépôt de goudron sur les dents, mais surtout quand on fait des interventions chirurgicales sur la gencive, a fortiori si on fait des implants et tout, on s'est aperçu que un patient qui fumait avait beaucoup d'incidents secondaires sur les interventions. Donc notre rôle, c'est d'expliquer et de dire qu'il ne faut absolument plus fumer lorsqu'on a des interventions. Et d'ailleurs, les chirurgiens dentistes, maintenant, ont le droit de prescrire des systèmes pour arrêter de fumer, pour des patchs, enfin, tout ce genre de systèmes. Donc, c'est vraiment un sujet qui est
important, très, très c'est important. C'est ça, vraiment éviter la cigarette, même pour les dents. C'est
ah
pas
oui,
bon.
Absolument. Voilà. Alors, quant au nouveau système qui existe, on n'a pas de travaux dessus, donc on n'en sait rien.
Il y a autre chose qu'on n'a pas encore tout à fait évoqué, c'est la douleur. Est-ce qu'on progresse dans ce domaine? Est-ce que vous nous faites moins mal?
Oh, je crois. Alors, on vous fait moins mal déjà parce qu'on a vous avez une autre approche de notre métier. Et je crois que là, la profession a fait beaucoup d'efforts pour essayer de dédramatiser ce cabinet dentaire, là, le cabinet des horreurs.
Ouais.
Et puis.
La roulette.
Ben, elle roule plus maintenant, elle siffle, mais enfin, elle peut faire aussi mal. Mais, ce qui est important, c'est la prise en charge, l'explication. Et c'est là où le numérique, on en revient au point de départ, notre congrès. Le numérique, c'est super important parce qu'on explique. Et à partir du moment où on explique aux gens ce qui se passe, on a moins mal. Si vous arrivez avec une grosse seringue, ouvrez la bouche, vous piquez, vous faites mal. Si vous expliquez, vous allez toucher qu'au départ, ça va traverser. Les gens sentent rien, généralement. Et ben, je crois que c'est très important. Puis, des moyens d'anesthésie qui sont quand même très, très efficaces maintenant et qui permettent de... Alors, une nouvelle chose aussi, bon, il faudrait une journée, hein, Claire, la prochaine fois.
Mais vous reviendrez, hein.
On parle aussi de l'hypnose qui redevient un sujet très, très, très important dans notre profession. Et il est vrai que, quand c'est fait sérieusement et que c'est étudié sérieusement, ça apporte beaucoup de soulagement aux gens. Moi-même, j'étais sceptique.
Ça vous fait des patients un peu plus calmes, c'est ça?
Ça fait des patients de toute façon un peu plus calmes, hein. Bon, il faut, de temps en temps, on complète un peu, mais...
C'est intéressant.
Ils n'ont plus peur de rien. Donc ça, c'est un sujet qui a été aussi développé au Congrès et qui est plutôt un sujet d'avenir, à mon avis.
Merci beaucoup, docteur Christian de Cloquemont. Vous revenez quand vous voulez nous parler de la santé de nos dents. Et on va terminer en parlant d'un concours pour une application santé.
Priorité santé sur RFI.
Bonjour, excusez-moi. Bonjour, Sinatou Sanaka.
Bonjour Claire.
Merci d'être avec nous. Vous savez que Priorité Santé lance un concours pour créer une appli santé. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour participer. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à aller sur Internet, vous renseigner sur des questions de santé. Et on a envie de vous aider à trouver finalement les bonnes infos. Et c'est pour ça qu'RFI lance la première édition du concours RFI Challenge App Afrique avec l'émission Priorité Santé. L'objectif de ce concours, ça va être de développer des services numériques innovants qui vont faciliter l'accès aux soins. Alors, Sinatou Sanaka, vous êtes journaliste au Nouveau Média de France Média Monde. Vous coordonnez ce concours. Pourquoi un concours?
Alors, le concours nous semblait important parce qu'il RFI a jugé important donc de développer des services numériques, donc sites internet, applications ou services SMS, afin de faciliter justement l'accès aux soins et de permettre aux utilisateurs de s'informer plus simplement, notamment en cas d'épidémie et de risque sanitaire. Donc aujourd'hui, je suis très très ravie de vous annoncer que nous avons déjà plus de 200 candidature, près de 20 000 visites sur le site, donc nous sommes très très contents et je vous invite à donc continuer à nous proposer vos belles idées.
Voilà. Alors justement, comment on fait pour participer à ce
concours? Alors donc rendez-vous sur le site internet dédié à l'opération, donc c'est app.rfique.rfi.fr. Voilà. Donc vous aviez jusqu'au 31 janvier 2016 pour participer.
Donc jusqu'à la fin du mois pour participer. On peut aussi vous contacter pour avoir quelques précisions sur comment déposer son dossier, quels sont les éléments importants.
Bien sûr, bien sûr. Donc c'est appafrique@rfi.fr et on reste à votre disposition.
Et vous répondez donc aux 200 qui ont déjà envoyé des candidatures, vous leur répondez les
Alors déjà, donc tous ceux qui ont envoyé leur candidature ont reçu un mail de confirmation, donc pour leur dire voilà, on a bien reçu vos candidatures, on revient vers vous. Et donc tous ceux qui ont des problèmes, qui veulent modifier leur dossier, peuvent nous écrire et on essaye de répondre le plus rapidement possible.
Et donc on a pour tout ça jusqu'au 31 janvier. Le conseil, c'est pas de s'y prendre à la dernière minute. Qu'est-ce qui va se passer après sur la sélection?
Alors donc après, il y aura 10 sélectionnés qui bénéficieront donc des formations données par Microsoft et Facebook. Et puis ensuite, ils auront le temps de peaufiner leur projet et de nous le présenter lors de l'événement donc dans une capitale africaine en avril prochain.
Voilà, c'est ça. Ce sera en avril prochain. On ne sait pas encore dans quelle capitale. Il y aura donc un jury pour sélectionner et tous les participants seront quand même récompensés. Même s'il y aura un lauréat, mais
oui, il y aura des formations donc données par nos partenaires Microsoft et Facebook notamment et qui seront données à tous les participants. C'est ça.
Sinatou Osanaka, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste au Nouveau Média à France Média Monde. Vous nous tiendrez au courant. Vous reviendrez dans le courant du mois de janvier.
Bien sûr. Merci beaucoup, Claire.
Pour nous tenir au courant du nombre de participants et on fera ça juste avant la clôture du concours qui est, je vous le rappelle, le 31 janvier. J'avais envie de vous poser une dernière question, docteur Christian de Cloquemont. À quand un vaccin contre les caries? On a un moment parlé de ça.
Non, éternelle question, éternelle réponse, nous ne savons pas.
Mais il y a encore des recherches dans ce domaine.
Il y a des recherches, bien sûr. Il y a des recherches sur l'élimination de certaines bactéries, mais il faut en éliminer certaines, mais pas d'autres, parce qu'elles sont en interrelation avec d'autres bactéries du corps humain.
C'est pas si simple que ça. Non. Merci beaucoup. Demain, c'est le docteur Catherine Solano qui répondra à toutes vos questions. On parlera plus précisément de la relation entre amour et plaisir sexuel. Un téléphone, le 33 1 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance, l'assurance d'être en de bonnes mains. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.